Bonjour.
Nous continuons le voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Cette série de 16 épisodes est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver la version originale en anglais sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ». C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. Règle numéro 2. Dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur, le bon esprit et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente. Car c'est le propre du mauvais esprit de leur causer des tourments de conscience et de la tristesse, d'élever devant elles des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Au contraire, c'est le propre du bon esprit de leur donner du courage et des forces, de les consoler, de leur faire répandre des larmes, de leur envoyer de bonnes inspirations et de les établir dans le calme, leur facilitant la voie et levant devant elles tous les obstacles, afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. Nous venons d'entendre le texte de la deuxième règle de discernement des esprits dans les exercices spirituels. Rappelons-nous ce que nous avons dit dans l'épisode précédent. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu et s'enfonce dans de sérieux péchés, l'ennemi cherche à faciliter cette tendance en jouant avec son imagination et ses sens. Et par contre, le bon esprit cherche à entraver ce mouvement en aiguillonnant et en mordant la conscience de la personne en s'appuyant sur son sens moral et sa raison. Quand une personne change ainsi de direction et qu'elle essaye sincèrement de se détourner non seulement de ses graves péchés, mais même de tous les péchés, et tous on est aux prises avec le péché, car sept fois le juste tombe, dit le proverbe. On a tous besoin au début de chaque messe de demander pardon à Dieu. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la condition humaine. Mais ce dont parle Ignace ici, c'est de quelqu'un qui veut sincèrement s'éloigner du péché, de tout péché, grand et moins grand, qui veut vraiment résister et se rapprocher de Dieu, qui veut réorienter complètement sa vie et prendre la direction opposée à celle qu'elle suivait. Eh bien, dans ce cas, nous dit Saint Ignace, les deux esprits, le bon et le mauvais, échangent leurs tactiques. Maintenant, c'est l'ennemi qui va essayer de freiner le mouvement vers Dieu et le bon esprit qui va essayer de le faciliter. C'est ce que nous venons d'entendre dans la lecture de la deuxième règle. Étudions d'un peu plus près les mots utilisés. Ignace commence par un portrait spirituel touchant du converti. Les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés. Il s'agit d'un effort sincère. J'avais l'habitude d'aller sur certains sites, de regarder certaines choses. Je ne veux plus faire ça. Je veux que ces habitudes disparaissent de ma vie. Peut-être que la personne va se confesser plus souvent. Elle fait tout son possible, sincèrement, courageusement, humblement et avec la grâce de Dieu, pour maîtriser ses mauvais penchants, pour se nettoyer de ses péchés. Et Ignace rajoute, elle va de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur. Peut-être que cette personne commence à prier différemment, à aller plus régulièrement à la messe, à essayer d'aimer ses proches, sa famille, d'une manière plus conforme à l'enseignement de Jésus, à être honnête, irréprochable, scrupuleux au travail, à raviver son implication dans la paroisse, bref, qui va de mieux en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur. Chez ces personnes, le bon esprit et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente, car c'est le propre du mauvais esprit de leur causer, et là, ils listent quatre choses. De leur causer des tourments de conscience et de la tristesse, d'élever devant elles des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux, afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Regardons rapidement chacune de ces attaques de l'ennemi. Des tourments de conscience. En espagnol, il utilise l'expression « mordre leur conscience ». C'est très figuratif pour les déranger, les contrarier, pour troubler leur tranquillité. Dans une très belle lettre d'accompagnement spirituel que nous possédons encore, qu'il envoie à Teresa Rejadel, une religieuse très pieuse de Barcelone, qu'il avait aidée pendant son bref séjour dans cette ville et qui continuait à correspondre occasionnellement avec lui pour solliciter ses conseils spirituels, même si lui-même n'est jamais retourné à Barcelone. Et dans cette lettre, il fait pratiquement un commentaire des règles. Il lui écrit « L'ennemi vous induit en erreur, mais pas d'une manière qui vous ferait tomber dans un péché qui vous séparerait de Dieu, notre Seigneur. » Ce que saint Ignace dit, c'est que une personne qui est remplie d'amour pour Dieu, qui progresse avec ardeur dans la foi, qui repousse énergiquement le péché de sa vie, ne veut sûrement pas faire quelque chose qui risquerait de la séparer de Dieu. Donc, au début, l'ennemi n'essaye pas de l'amener à pécher. Un jour ou l'autre, oui, s'il le peut, il essaiera. Mais ce n'est pas par ça qu'il commence. Il continue sa phrase. Il essaye d'abord plutôt de vous tourmenter, de déranger votre service à Dieu, de perturber votre paix d'esprit, de mordre, de vous retirer un peu de cette joie, de cette paix que vous ressentiez en vous rapprochant de Dieu, de vous entraver dans ce que vous essayez de faire pour servir Dieu, de vous troubler. Nous continuons à faire ce qui nous rapprochait de Dieu, mais maintenant la paix que nous ressentions est partie, laissant place à la confusion. L'ennemi est rusé. On peut très clairement discerner. Vous vous souvenez des trois étapes ? Prendre conscience, comprendre, agir. On peut très clairement discerner qu'il s'agit du travail de sape de l'ennemi. Et comment doit-on réagir ? La troisième étape, agir, nous donne la réponse. Il faut rejeter ces pensées qui viennent de l'ennemi, ne pas y succomber. Il s'agit de mensonges, d'une tactique de l'ennemi. Quelles sont les autres choses qu'il essaye de faire, selon saint Ignace, pour nous freiner ? Il essaye de nous attrister. Il ne s'agit pas d'une tristesse naturelle, normale, disons, à la mort d'un être cher, ou quand on quitte un endroit qu'on a beaucoup aimé. L'être humain connaît la tristesse et on doit apprendre à la gérer pour y faire face, c'est normal. C'est sain, pourrait-on dire, parce que c'est une expression d'amour et ça fait partie de la nature humaine. Mais Ignace ici parle d'une autre sorte de tristesse. Il s'agit plus d'une pesanteur de l'âme, si on peut dire, concernant notre relation à Dieu, nos temps de prière, notre vocation, notre contribution dans l'Église. Le paragraphe suivant de la lettre à sœur Teresa Rejadel précise et éclaire ce qu'il veut dire. Il lui écrit « Nous nous sentons tristes sans savoir pourquoi. N'avons-nous pas tous ressenti une tristesse semblable à l'occasion ? Où est partie la joie ? Je me sentais si bien près de Dieu. Et maintenant, je me sens pesant et triste. Manœuvre classique de l'ennemi, je peux témoigner que ça m'est arrivé. » Les mots de saint Ignace sont vraiment clairs. La beauté des règles de saint Ignace, c'est qu'elles nous ouvrent les yeux sur des choses que nous avons déjà vécues et nous commençons à comprendre ce qui se passe, à prendre conscience, justement à nommer nos expériences et à les décoder pour savoir quoi refuser et rejeter et quoi accepter. Il écrit ensuite à Teresa. Nous ne pouvons plus prier avec dévotion, contempler Dieu, l'écouter ou lui parler n'ont plus de goût, plus de saveur. Encore une expérience que nous avons tous probablement déjà connue, quand il est difficile de prier, de ressentir de la ferveur à l'Église. Il n'y a pas à avoir honte de ces moments-là, il s'agit simplement d'une ruse de l'ennemi pour freiner notre aspiration vers Dieu. La seule chose à faire est de discerner, prendre conscience, comprendre, agir, et dans ce cas, rejeter ses émotions et ses pensées négatives. Ignace continue à expliquer les tactiques de l'ennemi. Il va essayer d'élever devant nous des obstacles. Vous vous souvenez d'Augustin et des voix intérieures qu'il entendait. C'est trop difficile. Combien de fois as-tu déjà essayé d'abandonner tes habitudes de vie mauvaises ? Tu as échoué et tu vas encore échouer. C'est trop pour toi. Tu n'as pas assez de force. Des obstacles et encore des obstacles. Pour retenir la personne qui veut changer et l'empêcher d'avancer dans la bonne direction. Revenons à la lettre à Teresa Rejadel. Vous comprendrez pourquoi c'est presque un commentaire de la deuxième règle. Il dit « L'ennemi, de façon générale, suit cette approche. Il place des obstacles et provoque des contretemps sur la route de celui qui aime Dieu, notre Seigneur, et commence à le servir. C'est la première arme qu'il utilise pour essayer de le blesser. Prenons des exemples. Vous vous souvenez de cet homme dans la quarantaine, dans sa voiture, de comment sa conscience l'aiguillonne. Es-tu heureux du genre de vie que tu mènes ? Pourquoi rends-tu ta femme si malheureuse ? Que penseras-tu de toi dans 10 ans ? Il décide de suivre sa conscience, inspiré par le bon esprit, il recommence à aller à l'église, il se confesse pour la première fois en 10 ans, il assiste de nouveau à la messe du dimanche, il s'efforce avec énergie de se débarrasser de ses démons et va, de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur. Il se retrouve maintenant dans la position de celui que décrit Ignace dans la deuxième règle. Le voici à la messe du dimanche. Il aime les changements qu'il constate dans sa vie, sa relation avec sa femme évolue, les liens familiaux se resserrent, et cette réelle anxiété, ce vide qu'il ressentait depuis longtemps commence à s'estomper. Il est profondément touché par ce qui lui arrive. L'évangile du jour est tiré du chapitre 11 de Luc, l'enseignement sur la prière. Le prêtre fait une homélie simple mais vibrante sur la puissance de la prière, et ça lui parle tout de suite. Il se rend bien compte que déjà aller à la messe tous les dimanches a fait une grande différence pour le mieux dans sa vie. Et à mesure que le prêtre explique l'importance de la prière, sa puissance, sa beauté, il sent qu'il est profondément d'accord, que c'est ce qu'il est en train de vivre. Et le prêtre poursuit en invitant les paroissiens à trouver 10 minutes par jour pour prier à partir de la Bible. Il suggère de partir de la lecture de la messe du jour qu'on peut trouver facilement sur Internet par exemple. L'homme est touché par cette idée, il a envie de faire ça. Il sent profondément la joie et l'amour de Dieu pour lui et il s'entend penser « Oui, c'est ce que je vais faire ». Il sait que ça fait longtemps que sa femme prie ainsi tous les jours et que ce serait très facile pour lui de le faire aussi. Il décide de parler à sa femme, de lui demander où il peut trouver les lectures du jour. Il pourra facilement ajuster sa routine du matin pour libérer 10 minutes avant de partir travailler. La journée continue. L'heure du souper arrive. Et pendant la conversation autour de la table, il y a une certaine tension avec son jeune fils, qui ne se dissipe pas complètement. La soirée avance, 8h, 9h, il est dans son bureau en train de préparer sa journée du lendemain, et soudain il se rappelle qu'il avait décidé de parler à sa femme et qu'il voulait commencer sa prière quotidienne dès le lendemain. Mais maintenant des réflexions différentes l'accaparent. Il se surprend à penser « Qui crois-tu épaté avec tes belles résolutions ? Ça fait 20 ans que tu te tiens loin de l'Église. » Tu n'as jamais lu la Bible. Comment crois-tu que tu vas comprendre quelque chose, même si tu essaies? Et combien de temps crois-tu que ta petite crise de dévotion va durer? Pourquoi te ridiculiser à demander de l'aide à ta femme? Pour qu'elle constate dans quelques jours que tu as déjà laissé tomber? Vous remarquez? Des obstacles, encore des obstacles. Obstacles sur le chemin de celui qui essaye d'aller de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur. Tactique tellement classique de l'ennemi. N'avons-nous pas tous connu ça, quand nous prenons la décision de nous engager plus dans la prière ou de mieux aimer ceux que nous croisons sur notre route ou de prendre notre vocation plus au sérieux, plus fidèlement? Imaginons que notre homme connaisse l'enseignement de saint Ignace. Il prend conscience qu'il se passe quelque chose, il réalise que c'est une des ruses de l'ennemi et il fait tout son possible pour ne pas tomber dans le piège et rejeter ses pensées. Est-ce que c'est important ce qui se passe dans son bureau ce soir-là? Deux choses peuvent se passer. Il peut tomber dans le panneau de l'ennemi, se laisser décourager par ses pensées négatives et laisser tomber son projet de prière avant même d'avoir commencé. Ou il peut surmonter ses obstacles, commencer sa nouvelle habitude de prière et 6 mois, 1 an plus tard, se retrouver, bonne décision après bonne décision, de fil en aiguille, se retrouver beaucoup plus proche du Seigneur. Alors oui, ce qui se passe dans son bureau ce soir-là est important. Et apprendre les règles du discernement, c'est très important, parce qu'elles nous aident dans notre vie spirituelle de tous les jours, c'est-à-dire au cœur même de notre vie spirituelle. Combien de fois dans notre vie avons-nous des décisions majeures, critiques à prendre, celles relatives à notre vocation et la plus grande? Nous avons peut-être à choisir 1 ou 2 tournants professionnels majeurs, quelques décisions clés relatives à la vie en famille, mais l'essentiel de notre vie spirituelle se vit dans le quotidien simple, dans les hauts et les bas de la vie courante, les tiraillements de notre âme prise dans le combat entre le bon et le mauvais esprit. Alors, si nous pouvons prendre conscience de ce qui se passe, comprendre et agir, en choisissant judicieusement le parti de Dieu, nous serons transformés. Graduellement, nous grandirons et nous nous enracinerons toujours plus solidement dans le Seigneur. Pourquoi Dieu permet-il que ceux qui s'efforcent de se rapprocher de lui soient tentés, juste dans ces moments où ils font tout leur possible pour mieux le servir? Pourquoi nous laisse-t-il traverser ces épreuves? Pour répondre à cette question, on peut penser à un verset des Actes des Apôtres où il est écrit qu'il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la nature même de la vie chrétienne. On verra cela abondamment un peu plus loin dans l'étude des règles. Dieu nous donne de grandir non seulement dans la lumière et la chaleur de sa grâce, comme l'homme à la messe ce dimanche-là, mais aussi, d'une autre manière tout aussi critique pour notre croissance spirituelle, dans l'épreuve et la résistance à la tentation. La tentation engage notre pouvoir de décision. Nous pouvons y succomber et subir le mal que cela nous fera, c'est l'objectif de l'ennemi, mais si avec sagesse, courage, nous résistons, nous progressons spirituellement d'une manière accrue qui n'arriverait pas autrement. Nous retrouvons tous et toutes dans notre histoire personnelle des périodes de noirceur qui, d'une certaine façon, nous ont pratiquement forcés à prendre quelques-unes des décisions les plus profitables pour notre vie intérieure. Alors oui, il y a bien une raison pour laquelle Dieu permet qu'on traverse ces moments de lutte et de tentation. On y reviendra amplement en avançant dans les règles. En d'autres mots, Dieu, sa grâce, sont en permanence au travail dans notre vie. Revenons à la deuxième règle. Ignace nous parle d'une quatrième tactique de l'ennemi. Il nous trouble par des raisonnements faux. C'est ainsi que des personnes fidèles à Dieu qui pensent marcher sur la voie qui les rapproche de lui peuvent soudain perdre toute énergie, toute joie, toute paix de l'âme. Tout leur semble soudain complètement faux, erroné, factice. À chaque fois qu'on pensait avoir compris la volonté de Dieu pour nous, et que soudain on devient inquiet et troublé et qu'on commence à tout remettre en cause, on peut être sûr que c'est une attaque de l'ennemi. Vous vous souvenez que dans la première règle, le bon esprit utilise la raison. Il aiguillonne et mord la conscience, excitant le trouble et le remords en faisant sentir les reproches de la raison. L'ennemi, lui aussi, utilise la raison. Mais comme on peut s'y attendre, car l'ennemi, c'est le menteur, il sème le doute et cherche à troubler par des raisonnements faux et biaisés. Et si on n'en prend pas conscience, si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne réagit pas immédiatement en rejetant ces fausses idées, elles peuvent nous faire vraiment mal. C'est ce qui a failli arriver à Lucie, une personne que le père Gallagher accompagnait spirituellement. Elle venait de finir une retraite très riche qu'il avait comblée. Clairement, une personne qui allait de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur, donc susceptible de subir les attaques de l'ennemi décrites dans la règle numéro 2. Elle écrit à son accompagnateur pour partager les pensées qui l'ont envahie alors qu'elle était dans sa voiture sur le chemin du retour. Je cite. L'expérience que j'ai vécue alors que je rentrais à la maison après ma retraite du mois dernier m'a profondément marquée. Elle m'a prise complètement par surprise. Mon esprit était tellement confus que je ne pouvais pas m'expliquer ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas comment je pouvais me sentir si mal, si vite, après m'être senti si bien pendant si longtemps. Est-ce que nous n'avons pas tous connu des moments comme ça? Où est partie notre joie soudainement? Tout a disparu. Voyons comment Lucie essaye de déterminer ce qui se passe dans la confusion et la noirceur. Et soyons indulgents parce que nous pouvons facilement nous reconnaître dans sa situation. Elle écrit « Pendant tout le chemin du retour, j'ai remis en question tout ce que j'avais vécu au cours de la retraite. J'avais l'impression que, par ma faute, ça avait été une perte de temps totale. » Vous remarquez son inquiétude pour de mauvaises raisons. Elle vient de vivre une excellente retraite et maintenant, elle est en pleine confusion. Elle a l'impression d'avoir complètement perdu son temps. Elle continue à réfléchir. « Je me disais que je devais avoir de sérieux problèmes et que j'avais peut-être été malhonnête de ne pas en parler pendant la retraite. Et comme je ne savais même pas quel était le problème, j'en ai conclu que j'étais probablement incapable de faire une bonne retraite puisque j'étais incapable d'être honnête et ouverte. » On entend son inquiétude, son trouble. Elle pense qu'elle comprend ce qui se passe. « Ma retraite a été une perte de temps totale, donc j'ai sûrement un sérieux problème. » Elle est dans le noir, le fait qu'elle ne puisse même pas nommer le problème ne lui fait pas réaliser que peut-être bien qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, ça devient une preuve supplémentaire. Je dois être malhonnête. Et si je ne suis pas honnête, je ne suis pas capable de profiter d'une retraite, c'est inutile d'essayer. Toutes ces fausses raisons qui inquiètent et troublent l'âme. Et si elle accepte, si elle fait confiance à ces fausses raisons, refera-t-elle jamais une autre retraite ? C'est pour ça que le discernement est si important, même dans les choses banales, tout le temps en fait. Si par contre, Lucie prend conscience de ce qui se passe, comprend que ce n'est que l'ennemi qui essaye de la perturber, elle devient capable de refuser d'embarquer dans ce faux raisonnement. Visiblement, c'est ce qu'elle fait puisque non seulement elle ne laisse pas tout tomber, mais elle en parle à son accompagnateur spirituel. C'est une autre tactique classique de l'ennemi et il faut s'y attendre. Parce qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour nous retenir loin de Dieu. Les obstacles, la tristesse, les faux raisonnements, l'inquiétude. afin d'arrêter nos progrès dans le chemin de la vertu. Heureusement qu'il y a une deuxième partie à la règle, que le bon esprit est lui aussi au travail. Et à ce propos, il est important de se rappeler que le bon et le mauvais esprit ne sont pas égaux. L'ennemi est faible, il a été détruit, et il nous faut juste nous ouvrir au pouvoir et à l'amour infini de notre Sauveur. Réécoutons la deuxième règle en nous concentrant sur la deuxième partie. Dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur, le bon et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente. Car c'est le propre du mauvais esprit de leur causer des tourments de conscience et de la tristesse, d'élever devant elles des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux, afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Au contraire, c'est le propre du bon esprit de leur donner du courage et des forces, de les consoler, de leur faire répandre des larmes, de leur envoyer de bonnes inspirations et de les établir dans le calme, leur facilitant la voie et levant devant elles tous les obstacles afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. Saint Ignace, dans la deuxième partie de la règle, nous dit que c'est le propre du bon esprit de donner du courage et des forces, de consoler, de faire répandre des larmes, d'envoyer de bonnes inspirations et d'établir dans le calme en facilitant la voie et levant tous les obstacles. Le bon esprit donne courage et force. Vous vous souvenez de la conversion de saint Augustin, cette voix qui lui disait « Non, ce n'est pas si difficile, regarde tout cela, ils ont réussi. Ils n'étaient pas plus forts que toi, aie confiance en Dieu. Comme il les a aidés, il t'aidera aussi. » Le bon esprit donne à Augustin courage et force, et d'une façon très convaincante. C'est l'instant clé pour Augustin, ce courage, ces forces mènent aux larmes, à la conversion et à la transformation de sa vie intérieure. Prenons un exemple tout à fait banal qui peut arriver à n'importe qui. L'exemple d'une femme qui a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Elle est inquiète. Les nouvelles lors de sa dernière visite n'étaient pas très bonnes et elle doit en savoir plus cet après-midi. Elle vient de se lever et elle est préoccupée. Ou alors c'est son fils qui a des problèmes à l'université, ou sa fille qui ne va pas bien, ou alors son mari qui a des soucis au travail. Elle a des soucis. Elle se lève, elle se dirige vers la cuisine pour se préparer un café et manger quelque chose. Ses préoccupations occupent tout son esprit. Dans le couloir, son regard croise cette petite plaque qu'elle a accrochée, que vous connaissez peut-être, où on voit une seule trace de pas sur le sable, sous laquelle est écrite cette question « Quand j'étais dans l'épreuve et la souffrance, où étais-tu, Seigneur ?» Et cette réponse, c'était moi qui te portais. Elle connaît bien ce message et elle y croit. Immédiatement, son cœur s'allège et cette pensée l'accompagne. Seigneur, tu ne me laisseras pas seule aujourd'hui. Tu seras à mon côté, je le sais. Quelque chose en elle se fortifie. C'est le bon esprit qui lui donne force et courage. Le père Gallagher se souvient de ce qu'une autre femme lui avait raconté, une immigrante très active dans sa paroisse, dans son pays d'origine, mais qui, à cause des différences culturelles, trouvait vraiment difficile de s'intégrer dans sa nouvelle paroisse. Et un dimanche, à la messe, c'était pendant les lectures, elle s'est sentie tellement accablée qu'elle s'est levée, qu'elle a parcouru l'allée et a commencé à descendre les marches du parvis. Elle sortait de l'église et elle n'y reviendrait jamais. Et alors qu'elle descendait l'escalier, elle remarqua une autre femme qui courait en retard pour la messe. Quand elle arriva à sa hauteur, cette femme la regarda et lui sourit. Elle se retourna, remonta l'escalier et rentra dans l'église, pour un sourire. Elle devint par la suite un des piliers de cette paroisse. Le bon esprit, d'un million de façons créatives, donne courage et force à ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu, qui vont de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur. Tous autant que nous sommes, quand nous relisons notre histoire personnelle, nous pouvons identifier de nombreuses occasions où le bon esprit a fait preuve d'imagination et de créativité pour nous donner force et courage. Saint Ignace dit aussi que le bon esprit apporte la consolation. Nous verrons cela en détail, ce que c'est que la consolation dans l'étude de la troisième règle. Mais en bref, c'est quand le cœur est débordant de l'amour de Dieu. Les larmes d'émotion sont aussi un signe très touchant de l'amour et la consolation dont nous reparlerons. Elles sont la réaction physique du corps à la joie et à la ferveur qui nous emplissent quand nous réalisons l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Nous y reviendrons aussi. Saint Ignace parle encore d'inspiration. Cet éclair qui dissipe la confusion et permet soudain de savoir exactement ce qu'il faut faire. Je suis en train de lire un livre de spiritualité et soudain, je sais ce que je dois faire. Je parle à un prêtre à la paroisse et soudain, les choses deviennent claires. Inspiration divine. Revenons à notre ami dans la quarantaine, à la messe du dimanche matin. Il écoute l'homélie. Maître, apprends-nous à prier. Et le prêtre qui invite les paroissiens à prier chaque jour, 10 minutes à partir des Écritures. Ce moment où il ressent « Oui, c'est ça que je dois faire ». C'est l'inspiration envoyée par le bon esprit qui lui montre le chemin, qui lui indique l'étape suivante dans son parcours vers Dieu. La messe, la confession, la prière quotidienne, la lecture des Écritures, l'implication dans l'Église. Saint Ignace dit encore que le bon esprit nous établit dans le calme. C'est le contraire des tourments de conscience de l'ennemi, nous facilitant la voie et levant devant nous tous les obstacles. Vous vous souvenez de ce que le bon esprit murmurait à Augustin ? Regarde, ce n'est pas si difficile, regarde tous les autres, ils ont réussi. Ce n'est pas aussi difficile que toutes ces voies trompeuses qui te retiennent veulent te faire croire. Tu peux y arriver. Revenons encore une fois à cet homme ce dimanche-là, à son envie de prier, inspiré par l'homélie, au souper un peu tendu, aux pensées décourageantes le soir dans son bureau. Pourquoi t'embêter avec ça? C'est trop difficile, tu ne sais pas lire la Bible, tu vas te ridiculiser devant ta femme, etc. Et pendant qu'il est dans ses pensées, qu'il ne voit que des obstacles, qu'il est sur le point de laisser tout tomber, sa petite fille de 3 ans entre dans la pièce pour lui souhaiter bonne nuit. Elle s'approche et lui fait un câlin en lui souriant. Il s'attendrit, lui dit combien il l'aime, il lui souhaite une bonne nuit et elle s'éloigne. Ce moment de tendresse le réconforte et lui redonne de l'énergie, et soudain ses pensées s'éclaircissent. Je commence demain. Le bon esprit facilite les choses et enlève tous les obstacles, donnant courage et force d'un million de façons inattendues. Voilà, nous avons fait le tour de la deuxième règle. Quand quelqu'un essaye sincèrement de se rapprocher de Dieu, on parle de tous ceux qui ont la foi et qui veulent sincèrement vivre de plus en plus conformément à leurs valeurs de disciples du Christ. Quand quelqu'un essaye sincèrement de se rapprocher de Dieu, l'ennemi va essayer de le freiner en l'attristant, en le troublant par de fausses raisons, en dressant des obstacles devant lui, et le bon esprit va tout faire pour faciliter cette aspiration en donnant courage, force, réconfort, inspiration et en éliminant les obstacles.